Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Et c'est avec des températures beaucoup plus clémentes et respirables que nous débutons ce Présence Midi. Soyez toutes et tous les bienvenus. C'est un plaisir de se retrouver entre 12h et 13h. On va pas mal voyager aujourd'hui dans ce Présence Midi, puisque dans quelques instants, nous serons avec Louise Charbonnier. C'est une rediffusion des émissions qu'on a pu vous proposer pendant cette saison radiophonique. On profite aussi de cet été pour revisiter le meilleur de Radio Présence. Eh bien, nous serons avec Benoît Guillard. Nous irons faire aussi un petit tour du côté du parvis Sainte-Bernadette grâce à la chronique solidaire d'Anne Lasserre. Et puis c'est notre globe-trotteur en ce moment, Anne-Rose Jankovic, nous amène du côté des Pyrénées avec cette fois-ci un guide accompagnateur. Vous découvrirez tout ça bien sûr si vous restez à notre compagnie. Mais pour l'heure, un petit point sur l'actualité. On retrouve l'essentiel de cette actu grâce à Clémence Roux, étudiante à l'école du journalisme à Toulouse.
Bonjour à tous. Fibre Excellence échappe pour l'instant à la liquidation. Le tribunal de commerce de Toulouse accorde un nouveau délai à l'usine de Saint-Gaudens où un industriel français s'est porté candidat à la reprise. En Haute-Garonne, la sécheresse se poursuit. Les lâchers d'eau dans la Garonne atteignent des niveaux records et les autorités appellent à économiser la ressource. Avec les fortes chaleurs, le risque d'incendie reste très élevé. Les préfectures des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques renforcent les mesures de prévention. À Montauban, un militaire a été violemment agressé en pleine rue. Une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs. Enfin, à Golfech, l'un des réacteurs de la centrale nucléaire est de nouveau à l'arrêt. EDF assure qu'il s'agit d'une opération de maintenance sans conséquence sur la sûreté des installations. Voilà pour les titres de l'actualité.
Merci beaucoup Clémence Roux, on vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 12h30 pour l'actualité cette fois-ci un peu plus complète, régionale. Et puis à 13h, ça sera la rédaction française de Radio Vatican. On retrouve tout de suite la chronique verte, comme tous les vendredis, proposée par Benoît Guillard.
Présence à Bourdeuil, 94.
La chronique verte.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, j'ai fait la rencontre d'une personne que je voulais vous faire rencontrer tout simplement. Et nous sommes tous les deux à Lourdes. Et pour vous faire vivre et imaginer où nous sommes au centre Assomption de Lourdes, devant une fenêtre magnifique qui ouvre nos yeux et notre regard à la fois sur la grotte et les sanctuaires et sur la montagne enneigée sous un beau soleil. Donc c'est assez merveilleux. Pourquoi j'ai fait le choix de vous présenter Louise ? Parce que Louise, elle a un parcours assez particulier et puis elle travaille beaucoup sur le sujet de la transition écologique et dans des thématiques un peu moins courantes que d'habitude. Donc on va découvrir tout ça. Bonjour Louise, petite présentation.
Bonjour Benoît, merci beaucoup de me donner la parole et voilà, de pouvoir discuter de ce sujet très important qu'est la transition écologique. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et de pourquoi on se retrouve là, voilà, dans cette magnifique salle, en effet, qui a une vue magnifique sur les Pyrénées. Donc moi je viens de Lyon donc j'ai travaillé pendant longtemps dans la communication. Voilà, j'ai fait un doctorat en sciences de la communication. J'ai travaillé dans l'enseignement supérieur et la recherche pendant quelques années. Et puis j'ai voulu découvrir le côté un peu plus concret des réalités de la communication dans le secteur privé, dans le secteur public, à l'échelle locale, à l'échelle internationale. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ça pendant quasiment 15 ans. Ça m'a permis voilà, d'avoir une certaine ouverture sur le monde. Et puis au fil de des sujets que je croisais, des personnes que je rencontrais, le sujet de la transition écologique et sociale est arrivé petit à petit et s'est imposé petit à petit et de façon même assez forte sur les dernières années. Donc je me suis beaucoup renseignée sur ces sujets sur lesquels je n'avais pas de connaissances spécifiques. J'ai fait tout un parcours de formation en autodidacte. Et puis, il y a un moment où j'ai voulu franchir le pas et avoir une formation plus professionnelle. Donc, je suis allée me former au sein de l'Institut Polytechnique de Grenoble sur une formation en éco-conception dont les enjeux sont de diminuer les impacts environnementaux des activités, et notamment des activités industrielles. Donc là, je me suis vraiment plongée dans le cœur du sujet des impacts environnementaux. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je revoie ma façon de mettre mes compétences au service du collectif. Et voilà, il faut absolument repenser les façons de faire, oser sortir du cadre. Et j'ai rencontré énormément de personnes qui sont sur ce chemin. On a toujours l'impression d'être un peu solitaire dans ce type de chemin où on commence à se poser des questions, à essayer d'avoir une vue plus globale et plus décadrée des enjeux. Et on a la chance, quand on commence à se poser ces questions-là, voilà, de rencontrer en fait plein d'autres personnes qui sont dans ces questionnements aussi, qui viennent d'horizons variés, mais qui se retrouvent toutes à cette croisée d'un questionnement à la fois individuel, voilà, quelle est ma place dans le monde, quel est mon rôle et quel impact positif je peux avoir pour faire changer les choses et pour remédier aux problèmes dont on entend parler tous les jours sur la transition écologique et solidaire. Qui est loin d'être un état de fait aujourd'hui. Donc on se dit comment je peux contribuer, comment je peux apporter ma pierre et agir de façon juste et alignée. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que voilà, j'ai décidé de quitter le monde des agences de communication. Et donc j'ai la chance de travailler notamment auprès des territoires ruraux, sur la valorisation de tout ce qui fait aussi la richesse des territoires ruraux, donc le lien très fort à la terre, des savoir-faire et un patrimoine vernaculaire très important, qui ont justement besoin d'être revivifiés, d'être valorisés. C'est un sujet passionnant et qui concerne, qui est en lien en fait avec tous les autres sujets. Donc cette question du rapport à la terre, notamment de l'importance de l'alimentation, voilà, comment on habite le monde, comment on y mange, comment on s'en nourrit, et toutes ces problématiques m'ont finalement amenée ici. Voilà, déjà un premier aperçu du trajet qui amène dans tous les cas sur de très belles rencontres, sur de l'incertitude et de l'inconfort, il faut le dire aussi, mais surtout sur de magnifiques rencontres et de magnifiques projets qui se mettent en place, qui permettent voilà, de faire bouger les lignes, de sortir des cadres et d'inventer le monde qu'il faut inventer pour demain, un monde plus respectueux de soi-même, des autres et du monde. Voilà.
Alors Louise, si avec un parcours et puis je dirais une expérience personnelle aussi riche, une volonté aussi de s'ouvrir au monde et d'aller à la rencontre de ce monde, et en particulier ben, ici, puisque vous êtes venue à Lourdes, vous êtes venue dans un monde plus rural, hein, Lourdes aussi atypique, puisqu'inévitablement il y a aussi l'impact de la foi et des sanctuaires hein, dans ce contexte, et puis vous découvrez donc tout cet environnement là petit à petit depuis quelques jours, je le sais. Et dans ce contexte-là, si vous aviez une idée à développer par rapport à la situation actuelle de ce territoire ou des territoires ruraux, s'il y avait un levier principal avec votre regard et le recul que vous avez pour faire avancer un petit peu les hommes et les femmes de bonne volonté, ce serait lequel ?
Alors moi, j'ai une conviction assez profonde qui m'anime, c'est l'importance de se poser. Alors on peut l'appeler de plein de façons différentes, mais l'idée de faire une pause dans ce quotidien effréné qui nous entraîne d'obligations en contraintes, sans qu'on se pose la question de faire de ce qu'on fait, du sens de ce qu'on fait. Aujourd'hui, s'arrêter, se mettre en silence, à l'écoute de la vie autour de soi et de la vie en soi, de tout ce qui se passe ici et maintenant, voilà, de la richesse de ce présent. Pour moi, c'est le levier essentiel de la transition écologique. Et c'est dans ce sens-là aussi que j'essaye de vraiment mettre en place et de valoriser cette posture, on va dire, méditative, voilà, qui peut prendre différentes formes dans différents contextes, mais qui consiste avant tout dans ce geste très simple, finalement, de s'arrêter, de se poser, de s'asseoir et de se mettre à l'écoute de soi-même. Voilà, comment est-ce qu'on se sent en ce moment? Pourquoi? Que voit-on du monde autour de nous, là, à l'instant T? Et cette phase d'arrêt et de réflexion est pour moi le premier pas vers la transition écologique et vers la mise en mouvement, vers une action juste et réfléchie et nourrie de ce discernement qu'on peut avoir dans l'arrêt, dans la pause et dans le silence.
Et alors justement, dans un monde qui court partout, trop vite, à une vitesse folle et sans réflexion, comment du jour au lendemain on décide, tiens, je m'arrête? Comment on fait pour se dire d'un seul coup, tout va mal et finalement je veux aussi, moi, agir à ma façon? Je veux aussi poser des mots sur ces mots-là, justement, puisque c'est aussi ce que vous faites. Hein. Comment on peut expliquer à nos auditeurs que finalement c'est possible aussi?
En fait, je pense qu'il y a une part de mystère aussi, et je pense que c'est beau d'accepter cette part de mystère. Moi, il y a une notion qui me porte beaucoup en ce moment, qui est la notion d'ouverture. Cette ouverture à l'incertitude, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Cette ouverture à l'inconnu, en confiance, être en confiance par rapport à... Voilà, on est dans une période troublée, une période inconfortable, mais c'est l'ouverture en confiance vers ce qui va se passer. Et l'ouverture au mystère, finalement, c'est pas ce qui nous mène sur ce chemin. On se trouve sur ce chemin et on rencontre des personnes et on ne sait pas finalement. Voilà, c'est accepter ce mystère et la beauté de ce mystère et des rencontres qu'on peut faire qui nous mettent sur un chemin où on se sent plus aligné et on se sent plus vrai, plus utile et plus épanoui et plus toujours plus ouvert à des rencontres vraies et profondes. Et je pense que c'est ça, c'est en fait quand on vit ça, on se sent sur le bon chemin. Voilà.
Alors Louise, bon, je dois le dire à nos auditeurs, Louise, elle est jeune, hein. Elle est jeune et donc inévitablement, moi j'ai envie aussi de lui poser une autre question, c'est que ce monde, c'est jeune, ce monde qui reste jeune pour sa part, qui souvent est présenté comme angoissé, comme en grande difficulté avec cette société. Vous, Louise, vous le voyez comment ce monde que vous côtoyez au quotidien dans votre vie à vous?
Alors en effet, j'ai pas cette perception-là, je pense qu'il y a énormément de diversité et qu'en effet, quel que soit l'âge qu'on peut avoir et la génération à laquelle on appartient, on peut être dans une situation où on se sent un peu perdu ou au contraire, on peut être dans une position plus d'ouverture et de discernement et d'action, de mise en action. Je crois beaucoup aux vertus de l'action, justement, pour éviter ce côté d'éco-anxiété, d'immobilisme, finalement. Et en effet, j'ai la chance de voir énormément de jeunes autour de moi qui sont dans cette dynamique très courageuse, finalement très audacieuse, de dire oui, on est dans une situation compliquée, oui, on ne sait pas vers où on va aller, mais on se met en mouvement et on tente des choses pour agir de façon plus juste, plus respectueuse de la planète. Et on veut garder le meilleur du passé, mais surtout on veut inventer des façons de faire plus vertueuses. Voilà.
Donc beaucoup de joie quand même, hein, autour de ça, et de l'espérance aussi, du coup. Hein. J'aurais une question un petit peu plus personnelle. plutôt dans les aspirations et dans votre regard sur votre futur, un petit peu dans vos souhaits, dans vos rêves. Dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce que vous souhaitez pour ce monde et notamment pour ce monde rural?
Alors je souhaite qu'en effet, je me projette dans une situation où on se rendrait compte collectivement du fait que les territoires ruraux sont une vraie ressource dans cette période de crise. Et que c'est ici que se trouve finalement une part de la solution, une grande part de la solution, et notamment, je le répète, mais sur le rapport à la terre, le rapport au vivant, la façon dont on va se nourrir dans tous les sens du terme de ce qui nous entoure, de cette planète sur laquelle on a la chance d'habiter. Donc c'est pour ça que oui, pour moi, les territoires ruraux sont une des solutions pour changer les choses et des lieux ressources. Et je pense que le lieu dans lequel on est un lieu ressource à la fois géographiquement, à la fois voilà, par en effet cette joie et cette espérance que l'on peut sentir ici.
Merci infiniment, Louise. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de vous retrouver à Lourdes, puisque maintenant que vous avez rencontré justement cet espace un peu fraternel et merveilleux, vous aurez envie de venir nous voir à nouveau. Merci en tout cas pour cette interview. Je pense que c'était très inspirant aussi pour nos auditeurs et pour notre territoire rural. Et puis, à très bientôt. Au revoir, Louise.
Merci, au revoir à tous. Merci.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Présence sur le Causse. 106.5.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Solidairement Vôtre. Bien aujourd'hui, on va parler d'un lieu de rencontre au sein même du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, le parvis Sainte-Bernadette. C'est un espace d'accueil, de rencontre, de solidarité qu'on ne connaît pas forcément bien et pourtant il est situé au cœur même de la cité mariale. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adeline Tesserinck. Bonjour Adeline.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes salariée Adeline du CCFD Terres Solidaires pour la région Occitanie et particulièrement aussi pour un lieu d'accueil et de rencontre à Lourdes, l'espace Rencontre. Alors pour commencer, quelques mots pour nous expliquer ce qu'est le parvis Sainte-Bernadette. Et déjà, où se situe-t-il dans le sanctuaire?
Donc le parvis Sainte-Bernadette, c'est une pièce, c'est deux salles qui se situent à côté du parvis de l'église Sainte-Bernadette dans le sanctuaire, à côté de l'espace famille, donc de l'autre côté du Gave par rapport au basilique.
Donc très proche, on va dire, d'un côté il y a la basilique du Rosaire, il y a le pont, et l'autre côté l'église Sainte-Bernadette, et sur la droite... Le parvis Sainte-Bernadette.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce parvis Sainte-Bernadette?
Alors, ce parvis, c'est un lieu que le sanctuaire met à disposition pour pouvoir accueillir le pèlerin, lui offrir un lieu où il peut se poser, où on échange, on l'accueille sur ce qu'il vit dans son pèlerinage individuel, sur ce qu'il découvre du sanctuaire, et nous, on est un peu là pour l'aider à y mettre des mots, l'aider à y associer le thème de l'année du sanctuaire, ou les différents gestes et messages de Lourdes.
Alors, peut-on dire que le parvis incarne pleinement les valeurs d'accueil, de solidarité et de dignité portées à Lourdes ?
Il me semble que oui, puisqu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas que porté par le sanctuaire, mais aussi par différents mouvements et services d'église.
Alors justement, donc, le parvis a une dimension spirituelle, humaine et fraternelle. Quelles sont les associations qui se retrouvent pour animer le parvis Sainte-Bernadette ?
Ce parvis Sainte-Bernadette, moi je trouve que c'est un lieu fort, puisque c'est vraiment faire église ensemble, où on est des mouvements qui viennent vraiment d'horizons différents, donc il y a le CCF des Terres Solidaires, il y a Pax Christi, et il y a après l'Espace Vifoi, la Fraternité de Job.
Alors, qu'est-ce que l'Espace Vifoi ?
L'Espace Vifoi, en fait, c'est une association qui a été créée, où c'est le rassemble de tous les mouvements chrétiens, comme le CMR, comme la CO, l'Action Catholique Ouvrière, l'Action Catholique des Enfants, voilà, tous ceux qui sont dans une dynamique de observer, voir, comprendre et agir.
Alors, vous disiez, donc, CCV des Terres Solidaires, Pax Christi, Vifoi, d'autres mouvements et services se sont associés au parvis ?
Oui, il y a la Fraternité de Job, qui, eux, viennent essentiellement en juillet et qui vraiment proposent des ateliers de vivre ensemble aux pèlerins qui viennent ici.
Fraternité de Job, est-ce que c'est ce rassemblement de personnes qui se sont trouvées après le rassemblement Diaconie ou Diaconia en 2013
oui.
Donc des gens qui connaissaient une certaine précarité,
fragilité.
Ouais.
Et qui se sont mis ensemble et qui, pour le coup, représentent vraiment une image de l'Église, un visage de l'Église qui, grâce au sanctuaire, a une place ici pleinement à travers ce parvis.
Et vous disiez la Légion de Marie aussi.
Et la Légion de Marie, exactement, qui fait des permanences tous les dimanches.
D'accord. Alors la Légion de Marie, je crois aussi qu'elle est très engagée au niveau de la procession eucharistique au sanctuaire. Alors, dites-nous, on imagine combien cette diversité d'associations, de mouvements est une vraie richesse. Vous-même, vous dites vraiment, et ça dit quelque chose de l'Église. Comment s'organise la collaboration entre vous tous ?
Par la discussion, et on y arrive, on partage ce lieu, donc on s'est un peu réparti les différents jours de permanence, et après on co-anime ensemble certains temps.
Donc il y a une coordination de ces mouvements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être un chaplain ou quelqu'un d'autre dans le sanctuaire qui a le lien avec vous ?
Il y a effectivement un chaplain qui est référent de cette mission-là. C'est le Père Turc, Jacques Turc, qui nous accompagne et qui nous invite en début d'année à se réunir pour organiser l'année qui va arriver, la saison qui va arriver, et qui aussi nous nourrit du thème d'année du sanctuaire pour qu'on puisse aussi qu'on puisse le faire passer à travers les pèlerins.
Et quel est ce thème d'année, cette année ?
C'est le « Je vous salue Marie » et c'est le « Oui inconditionnel de Marie face à l'ange Gabriel » d'accepter la mission, d'accepter le Fils de Dieu dans son sein.
Alors, on peut imaginer que chacun ou chacune des associations qui forment le parvis Sainte-Bernadette a travaillé ce thème avec leurs spécificités. Vous, au niveau du CCFD Terre Solidaire, comment vous allez proposer cette rencontre avec les pèlerins autour du thème du « Je vous salue Marie » ?
Effectivement, la grosse richesse de ce parvis-là, c'est qu'on est plusieurs mouvements et services d'église à l'animer, et donc on accueille le pèlerin avec chacun sa couleur. Et on propose des activités en lien avec sa couleur, avec ce qu'on peut porter aussi, tant dans notre message d'église que dans notre association. Et donc cette année, on propose, il y a différentes animations qui sont proposées. On va faire des animations type théâtre Kamishibai autour des signes et des gestes de Lourdes, mais aussi du oui de Marie, de comment est-ce qu'on peut approfondir en quoi le oui de Marie fait écho en moi, à quel moment moi aussi je dis oui au Christ, à quel moment je dis oui à la mission que le Seigneur m'a donnée et qu'est-ce que ça m'apporte aussi. Et Pax Christi fait de même, enfin, il y a des porte-paroles, il y a des petites animations autour de la question de la paix, autour de la question de moi, comment je m'investis là-dedans, autour des prières de Bernadette.
Vous avez parlé tout à l'heure des signes de Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous en présenter l'un ou l'autre et comment vous-même vous arrivez à le mettre en valeur auprès des pèlerins ?
Donc les signes de Lourdes, il y en a différents. Il y a l'eau qui est vraiment le signe majeur sur lequel l'eau c'est la vie et qui est vraiment présent dans notre quotidien. Donc nous on arrive vraiment facilement à pouvoir échanger autour de ça, comment cette eau qui est la source de la vie et en même temps on l'épuise tellement que c'est aussi un danger, mais comment est-ce qu'on peut le remettre en avant et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Il y a la lumière, le cierge, la lumière, donc ça c'est à travers les processions, mais nous aussi la lumière c'est aussi le Christ présent auprès de nous, donc comment est-ce qu'on le fait vivre, et le rocher qui est un autre signe important, où le rocher, c'est là où on s'abrite, c'est quelque chose qui est rassurant et en même temps un côté un peu qui peut faire peur parce que c'est dans le noir. C'est quelque... Et nous, au niveau du parvis du CCFD, c'est aussi un signe où on peut aussi parler de la roche, quelque chose de solide, mais qui est aussi très, très fragile, sur lequel c'est important d'en prendre soin de notre nature et de ce que ça peut nous apporter.
On entend, Aline, à travers tout ce que vous venez de nous dire, que les activités au sein même du Parvis Sainte-Bernadette sont très diversifiées, en fait. Mais quel rôle joue le Parvis Sainte-Bernadette au sein même du sanctuaire de Lourdes ? On a bien compris votre situation au cœur vraiment de la cité mariale, à quelques pas même de la grotte. Quel est le rôle que vous jouez et qui est essentiel ?
Le rôle essentiel, c'est d'accueillir le pèlerin individuel, celui qui ne vient pas dans un groupe et qui, pour le coup, n'a pas forcément fait de programmation, qui découvre un peu le lieu sur le moment. Et notre rôle, c'est vraiment de pouvoir l'accueillir, éventuellement de le guider sur les différentes propositions que fait le sanctuaire et d'avoir aussi un temps ici d'échange sur en quoi ça résonne tout ce qu'il est en train de vivre, tout ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il interroge et comment est-ce qu'il peut se nourrir pour après, quand il repart chez lui, repartir avec tout ça et être un peu un missionnaire.
Donc il y a vraiment un impact sur le pèlerin. Vous ne seriez pas au cœur du sanctuaire, c'est des gens qui ne sauraient pas forcément où se diriger. Ben, ils iraient vers la grotte parce qu'elle est encore assez facile à découvrir, mais qui n'auraient pas forcément eu de contact avec quelqu'un qui donne vie au sanctuaire.
D'autant plus que souvent, on rencontre des gens qui se posent et vraiment qui, là, vont aller échanger et partager des choses très profondes de ce qu'ils ont vécu ou de ce qui les a amenés à venir ici. Et ils s'enrichissent de ça, ils nous le confient. C'est vraiment un trésor qu'ils nous confient. Et après, on essaye, en tout cas, par l'écoute qu'on lui propose et les pistes de réflexion qu'on peut partager, à faire qu'ils s'en nourrissent et qu'ils puissent après ressortir grandis.
Est-ce qu'on pourrait dire que l'initiative Parvis Sainte Bernadette complète la dimension spirituelle du sanctuaire? C'est une présence concrète que vous avez auprès des personnes seules, comme vous me disiez, mais peut-être aussi de personnes en précarité, de personnes fragiles qui viennent en sanctuaire et qui ont besoin peut-être d'avoir un visage sympathique, là, dans leur contact, à quelques pas de la grotte.
Tout à fait, la porte est ouverte. Alors après, c'est pas toujours évident de passer le pas, mais c'est sûr qu'une fois qu'ils l'ont passé, qu'ils découvrent ce qu'il y a, souvent, ils se posent, ils arrivent à se poser, et on prend le temps d'échanger, et ça, vraiment, c'est... souvent, même, ils vont revenir plusieurs fois dans leur séjour. Ils arrivent au début, et puis après, ils reviennent au milieu, et puis à la fin, pour partager un peu tout ce qu'ils ont vécu. Au moins, ils ont une personne, en fait, à qui ils peuvent... où ils sont pas tout seuls dans ce pèlerinage, à qui ils peuvent partager ça.
Moi, en travers tout ce que j'ai entendu de votre partage, Adeline, j'entends combien c'est une manière de vivre la foi à travers à la fois l'action et la rencontre des autres. Merci Adeline pour cet éclaircissement, ce témoignage aussi, parce que je sais que vous y êtes engagée avec toutes vos tripes d'acteurs solidaires. Alors, on retient que le Parvis Sainte-Bernadette est bien plus qu'un espace, hein, un lieu de rencontre, de solidarité et d'espérance.
Tout à fait, merci.
Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle. À très bientôt pour une nouvelle émission.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Et un grand merci à tous les bénévoles. Tout à l'heure, nous avons bien sûr la chronique verte de Benoît Guillard. Et puis à l'instant, c'était Anne Deslois qui est aussi bénévole. On remercie bien sûr tous ces bénévoles qui sont là tout au long de la saison radiophonique. Hein, vous l'avez compris, ce sont des rediffusions du meilleur de la saison dernière. Et on retrouvera bien sûr tous nos chroniqueurs dès la rentrée prochaine. Elle, eh bien, va nous entraîner dans les sentiers du Moudon dans quelques instants avec un guide, et ce n'est pas de la rediffusion puisque elle est en train de nous faire des reportages chaque jour. C'est Anne-Rose Jankovic à suivre juste après avoir écouté un Pokora.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love.
Really?
Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just sing it, sing it in the rain.
singing in the rain.
What a glorious feeling, and we're happy again.
I'm laughing at clouds so dark up above.
The sun's in my heart, and we're ready for love.
Like the stormy cloud chase,
yeah, man.
Everyone from the place,
hey, come on with the rain.
I have a smile on my face.
I walk down the lane
with a happy refrain.
Sing it.
Ah, les anciens l'auront reconnu, Sing in the Rain, M. Bokora à l'instant.
Radio Présence à Pau, 96.
Et on retrouve un point sur l'actualité à la mi-journée. Bonjour Clémence Roux.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, Fibre Excellence évite pour l'instant la liquidation. Le tribunal de commerce de Toulouse a accordé un nouveau délai à l'usine de pâte à papier de Saint-Gaudens. Un industriel français s'est porté candidat à la reprise du site. Les 270 salariés conservent donc un espoir avec plusieurs semaines supplémentaires pour permettre au repreneur de finaliser son offre. Autre sujet, la sécheresse en Haute-Garonne. Les lâchers d'eau dans la Garonne atteignent des niveaux records afin de maintenir un débit suffisant jusqu'à l'automne. Malgré ces apports, la situation reste très tendue et les autorités appellent chacun à économiser l'eau. Face au risque élevé d'incendie, les préfectures de Haute-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques renforcent également les mesures de prévention. Certains travaux de forêt sont désormais interdits, tout comme l'usage de feu à proximité des espaces boisés, afin de limiter tout risque de départ d'incendie. À Montauban, un militaire a été violemment agressé en pleine rue. Selon les premiers éléments de l'enquête, plusieurs individus s'en seraient pris à lui à l'aide d'une barre de fer et d'une arme à feu. Blessée, la victime a été prise en charge par les secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette agression. Près de Saint-Gaudens, un incendie de végétation s'est déclaré. Une dizaine d'hectares ont été menacés. D'importants moyens de secours ont été mobilisés pour empêcher la propagation des flammes et protéger les habitations situées à proximité. Enfin, dans le Tarn-et-Garonne, la centrale nucléaire de Golfech a de nouveau mis l'un de ses réacteurs à l'arrêt. Il s'agit de la troisième interruption depuis le début de l'été. EDF évoque cette fois une opération de maintenance programmée et assure que cet arrêt n'a aucune conséquence sur la sûreté des installations. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.
Merci beaucoup Clémence Roux, que nous retrouvons bien sûr dès la semaine prochaine. Tout pour l'instant, eh bien écoutez, si vous êtes confortablement installé, nous allons prendre la direction avec un guide de nos belles montagnes grâce à Anne-Rose Jankovic.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Daniel Guilly est accompagnateur en montagne depuis 45 ans. Il exerce en Vallée d'Or, entre autres, mais pas seulement. Il navigue en réalité dans toutes les Pyrénées et même parfois dans d'autres pays, à travers le monde. Sa vie emmenait dans ces montagnes toutes les personnes désireuses de découvrir et mieux connaître le milieu montagnard. Aujourd'hui, il vous embarque, vous, auditeurs de Radio Présence, à la découverte de la vallée du Moudang.
Allez, c'est parti pour le Moudang.
Bonjour Daniel Guilly.
Bonjour Anne-Rose.
Est-ce qu'on peut dire, Daniel, que vous êtes un enfant du pays ?
Alors, ben, moi, je ne suis pas né là, mais j'y suis arrivé, j'avais 9 ans, en 1971. Et en fait, bon, voilà, je ne suis pas né ici, mais je suis, je ne sais pas comment dire, mais imprégné de ce territoire et de montagne. D'une manière qui me permet de vivre une vie que j'ai choisie, quoi, tout simplement.
Alors, nous sommes là dans la vallée du Moudang, hein, c'est sur la commune de Trameseg. On est parti de bonne heure ce matin, et quand on a pris ce sentier qui mène jusqu'aux granges du Moudang, là où on est installé, dans ce hameau de granges que vous allez nous présenter dans quelques instants. Au moment où on est parti, il y avait un panneau, chemin de liberté. Et vous m'avez dit tout de suite d'entrée de jeu, moi je dirais plutôt que c'est un chemin d'histoire. Alors qu'est-ce que c'est que ce chemin d'histoire du Moudang ?
Bon, en fait, chemin de la liberté, chemin d'histoire, ça veut dire à peu près la même chose, puisque ce chemin comme tant d'autres dans nos montagnes, a été emprunté par des gens qui fuyaient soit du versant espagnol vers le versant français ou l'inverse. Donc, chemin de liberté, mais chemin d'histoire, bien avant cette histoire-là aussi, puisque depuis de très nombreuses générations, les gens de Tramezeig sont venus ici au Moudang pour leurs animaux, pour pouvoir continuer leur vie d'éleveur, tout simplement.
C'est ça qu'on appelait le pastoralisme, ou qu'on appelle toujours le pastoralisme ?
C'est ça qu'on appelle le pastoralisme, et qui est encore très présent dans nos montagnes, et qui a une place plus que importante, puisque ce pastoralisme est lié à des savoir-être, des savoir-faire, à des traditions, et aussi et surtout à... malgré ce que pourront en dire beaucoup, eh bien, à un entretien du milieu, des milieux, et surtout quelque chose qui va énormément favoriser la biodiversité.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer justement ça ? Comment ce pastoralisme rend service à la nature ?
Alors, eh bien, parce que d'abord, il débarrasse beaucoup d'endroits de montagne de plantes invasives, comme les genévriers, les rhododendrons, les genêts à balai, autant que faire se peut, c'est pas évident, bien sûr que non. Mais malgré tout, s'il n'y a pas de pression pastorale quelque part, eh bien cet embroussaillement se fait de plus en plus présent et de plus en plus rapide, quoi.
Alors pour que le pastoralisme soit vraiment réel, effectif, il faut que tous les ans, les troupeaux montent en estive. Donc ça veut dire que là, autour de nous, là autour de ces granges du Moudang, ce hameau de granges, hein, il y a une vingtaine de granges à peu près, on devrait voir des troupeaux là fin juillet.
Alors on devrait les voir, mais comme vous le savez, eh bien il fait très chaud partout. Ici, ça fait pas exception. Et les bêtes sont beaucoup plus haut en altitude. Elles sont allées chercher de la fraîcheur et surtout de l'herbe à manger. Parce qu'ici, eh bien, l'herbe à l'altitude des granges, un petit peu plus de 1500 mètres, eh bien l'herbe, c'est de la paille, quoi. Et donc elle est absolument pas très bonne à manger. Et elles sont allées plus haut en altitude avec l'espoir de pouvoir trouver des places où l'herbe sera encore de bonne qualité.
Mais alors, il y a combien de bêtes aujourd'hui dans la vallée du Moudang ?
Alors, cet été, enfin ce printemps plutôt, au début du mois de juin, il est monté vers le Moudang 3700 bêtes.
Alors, ce pastoralisme, il ne se vit plus comme autrefois, c'est-à-dire que là, avec ces plus de 3000 bêtes, il n'y a pas un berger ou deux bergers avec leurs chiens, il n'y a plus de bergers. Ces granges-là que nous voyons autour de nous, elles ne sont plus utilisées par les bergers qui viennent veiller sur les troupeaux.
Alors, les granges ne sont plus utilisées à des fins pastorales, mais les éleveurs montent au moins une fois par semaine.
D'accord.
Il y a eu un berger pendant de nombreuses années. Et bon, voilà, il n'y a plus de berger pour le moment, mais je dis bien pour le moment, parce que peut-être qu'il faudra en remettre un de ces moments. Si jamais la prédation, par exemple, se refait beaucoup plus présente, à ce moment-là, il faudra bien remettre en place un gardiennage, quoi.
Alors, quand vous parlez de prédation, vous évoquez l'ours, le loup ?
L'ours et le loup, forcément. Parce que, bon, le loup...
Ils sont présents ici, vous ?
Le loup est de passage, quoi. On sait qu'il est passé par là. On l'a vu des traces il y a quelques années. Et l'ours, lui, par contre, peut être beaucoup plus près, beaucoup plus présent. Mais bon, voilà, on se rend compte aussi que le nombre d'ours augmentant, on n'a pas non plus forcément beaucoup plus de prédation. Pour le moment, en tout cas. Alors, tant mieux. Ça veut dire que les méthodes de garde, malgré tout, sont efficaces. Mais, à garder en observation, toujours, toujours.
Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, en particulier pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément le milieu de la montagne, pourquoi ce pastoralisme, puisqu'on voit bien qu'il n'est pas si, il n'est pas devenu si évident que ça, pourquoi il est tout le temps, toujours nécessaire ?
Alors, cette année est très particulière et nous montre bien à quel point il est important de monter les bêtes en montagne. Depuis de nombreux siècles, c'est pas d'aujourd'hui, les hommes et les femmes de ces montagnes ont compris qu'il était important pour la survie de leurs troupeaux d'utiliser la totalité de la ressource fourragère, c'est-à-dire l'herbage qui va pousser dans les fonds de vallée, l'herbage qui pousse en moyenne altitude, c'est-à-dire aux environs, comme là, à peu près de 1500, 1400, 1500 mètres, et tout l'herbage qui pousse au-delà, aux environs même, pourquoi pas, de 2800 mètres d'altitude. Donc, L'intelligence des peuples montagnards, qui a été ici dans les Pyrénées ou ailleurs, dans les Alpes et dans d'autres massifs de montagnes, et même dans d'autres pays bien sûr, ça a été de voir que, en fonction du moment de l'année, il était important de pouvoir avoir les bêtes en bas de la vallée à la sortie de l'hiver, une petite partie du printemps, et vers la fin du printemps, monter vers la moyenne altitude, voire la haute montagne. Et laisser les prairies basses, les prairies de la basse vallée, pour être à ce moment-là exploitées sous forme de foin, qui va nourrir les bêtes ensuite pendant l'hiver. Et donc, jusqu'à présent, eh bien, on a pu garder les bêtes en montagne 4 mois, même quelques fois plus, en fonction des années. On espère quand même qu'il va se remettre à pleuvoir pour que l'herbe, même d'altitude, puisse repousser, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Bon, espérons que ça vienne. Mais en tout cas, derrière tout ça, de garder présent au cœur de ces montagnes, quelque chose vraiment, vraiment de très important, relié à l'histoire des peuples montagnards.
Alors donc, ces granges qui sont autour de nous, elles sont la mémoire hein, de ces périodes-là. Il y a non loin de là, et d'ailleurs, peut-être que les auditeurs l'entendent un petit peu comme une musique, comme une petite ritournelle en fond d'interview. Il y a une source, pas n'importe quelle source. D'ailleurs, on a vu en arrivant, en approchant de ce hameau de grange, que le cours d'eau n'était plus de la même couleur, il était presque ocre, presque rouge.
Alors en fait, ici au Moudang, comme dans pas mal d'endroits des Pyrénées, mais ici au Moudang particulièrement, il y a 4 sources ferrugineuses, dont la fameuse source de la reine, à laquelle aucune reine n'est jamais venue, mais en tout cas elle s'est appelée comme ça. Elle a même été commercialisée à un moment donné, cette eau mise en bouteille et commercialisée pour soigner les problématiques d'anémie ou de chloroanémie. Et donc, ici, dans ces montagnes proches de la frontière avec l'Aragon, le fer est présent sur une grande quantité de massifs. Et l'exploitation de ce fer a aussi existé ici au Moudang. Il y a eu de l'extraction, mais il y a surtout eu, ici au Moudang, une histoire reliée à des mines aragonaises, à des mines espagnoles, qui étaient exploitées pas très loin derrière la frontière et dont on transportait le minerai par l'intermédiaire d'un téléphérique d'une bonne dizaine de kilomètres pour redescendre le minerai au pont du Moudang.
Pourquoi on pouvait pas passer par la route? Le tunnel d'Aragnouette n'était pas encore créé, mais côté espagnol, il y avait des routes.
Exploitation des mines à partir des années 1850-60. Arrêt de l'exploitation 1953 par déraillement d'un pylône d'angle sur le téléphérique du Moudang. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser la voie espagnole? Tout simplement parce que les voies de communication sur le versant espagnol étaient quasi inexistantes et surtout largement insuffisantes pour pouvoir imaginez le transport du minerai par voie routière, en tout cas.
Donc le minerai est passé là, juste derrière nous, par voie téléphérique, arrivé en bas au niveau du pont de Moudang, et après était encore acheminé un peu plus loin avec des charrettes.
Avec des charrettes qui descendaient ce minerai vers Aro, vers la gare d'Aro, ouais, où ce minerai était ensuite chargé dans des trains, qui l'amenaient ensuite vers Santander, au Pays Basque.
Ça retournait en Espagne.
Ça repartait en Espagne, voilà, dans une zone industrialisée de l'Espagne, qui en est toujours d'ailleurs, qui est Santander. Ce minerai était aussi un petit peu utilisé en Vallée d'Or. Il y avait, là où se trouve l'actuelle centrale électrique de Saint-Lary, des forges. À cette époque-là, il y avait aussi des forges à Rebouc, à l'entrée de la vallée, qui utilisaient, elles aussi, une partie de ce minerai, mais en petite quantité, vraiment.
Donc ce minerai, il a aussi permis une collaboration d'ouvriers français et espagnols.
Français, espagnols et d'autres pays aussi, puisque à l'époque de ces grands chantiers, eh bien, on commençait à venir vers nos montagnes des gens même d'Italie. Et donc, tout ça était générateur de travail, oui, d'emploi. Et puis, a amené aussi dans nos vallées, eh bien, une démographie qui a été ensuite assez importante, qui a un petit peu diminué par la suite, mais qui, bien entendu, continue aujourd'hui d'exister, pour d'autres raisons encore, qui sont touristico, comment je pourrais dire, touristico, presque on pourrait dire montagne refuge par rapport à tout ce qu'on vit en termes de chaleur et tout ça. Les gens sentent le besoin de monter en altitude pour venir chercher du frais, quoi.
Pour terminer sur la source, aujourd'hui, cette source, on voit quelques promeneurs, d'ailleurs c'est ce que nous avons fait aussi, vous et moi, on est monté jusqu'à la source de la Reine, qui porte ce nom, on ne sait pas trop pourquoi finalement, on l'a consommée, elle a un goût un peu de métal, hein, faut bien le dire, mais des personnes viennent vraiment pour découvrir cette source, montent ici pour la source.
Les gens montent pour la source parce que, ben, ma foi, elle a cette particularité d'être chargée en fer et d'avoir cette couleur un peu rougeâtre, très très particulière. Alors pourquoi source de la Reine? Parce que le monsieur, le privé qui l'a commercialisé, l'avait appelé la reine ferrugineuse.
On fait une petite pause pour se désaltérer à une source non ferrugineuse celle-ci, et après un petit cloquette, comprendre une petite sieste, on reprend la conversation avec Daniel Guilly. Alors pour monter jusqu'à ces granges, on a parcouru d'abord un sentier, une voie forestière plutôt assez large, plutôt encaissée aussi. Et puis tout d'un coup, on est arrivé devant ce hameau de grange. Tout d'un coup, le paysage s'est ouvert. Alors, est-ce que vous pourriez, Daniel, faire un petit peu la carte postale de cette vallée du Moudang pour que les auditeurs comprennent bien aussi ce qui se joue quand on chemine comme ça à travers le Moudang, ce qu'on peut découvrir de cette faune et de cette flore qui change d'un bout à l'autre.
Alors, on part au pont du Moudang à 1100 mètres d'altitude. On arrive à un peu plus de 1500 mètres, ce qui représente pas beaucoup, beaucoup de dénivelé. Mais en traversant toute la strate, ce qu'on appelle l'étage montagnard, c'est-à-dire toute la strate de la forêt de montagne. Ça commence par beaucoup de feuillus, mélangés de quelques résineux, et puis plus on monte, et plus les résineux seront présents. Donc on monte là, dans une forêt de hêtres, absolument somptueuse en automne, évidemment, et au printemps aussi, quand l'enfeuillement arrive.
Je vous demande pas s'il y a des champignons à l'automne.
Ça dépend des années, bien sûr, et cette année, c'est mal parti. Et donc, une fois passé comme des gorges, une vallée en forme de V, creusée par des torrents énormes de fonte glaciaire, on arrive ensuite sur un replat, un grand replat, un immense replat, sur lequel, d'ailleurs, tout au bout, ont été construites les granges du Moudang, et qui a dû, à une certaine époque, qui doit remonter à peu près à 15-20 000 ans, a dû être un lac. Un lac qui s'est comblé petit à petit par l'intermédiaire de toute la matière qui est descendue de l'altitude, sous la forme de torrents de fonte glaciaire, sous la forme d'avalanches de neige, de pluies torrentielles, enfin, tout ça a fini par boucher cet espace lacustre qu'on ne peut pas dire que autrement, tout simplement parce que c'est plat. Et les plats en montagne, bien souvent avant, eh bien, c'était des zones lacustres, quoi. Et donc, ces granges sont sous forme d'habitats groupés. Ce sont des bâtisses qui sont serrées les unes contre les autres et qui sont situées à un endroit de la vallée où le risque d'avalanche est le plus minime possible. Avec un peu de soleil, bien sûr, mais surtout à l'abri des avalanches. Car le chemin qui monte aux granges du Moudang est un chemin compliqué, très compliqué, l'hiver.
Toujours aujourd'hui, en 2026, y a la neige, enfin les quantités de neige peuvent faire que, eh bien, c'est compliqué.
À voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, l'hiver dernier, le danger d'avalanche était très présent et on ne pouvait pas décemment monter au Moudang n'importe quand dans l'hiver.
Vous-même qui connaissez par cœur ce sentier, vous ne venez pas l'hiver quand il y a de la neige?
Jamais. Ça, c'est un enseignement qui nous arrive des anciens, hein. Et on a des itinéraires, des vallées, ici en Vallée d'Or et dans d'autres régions, quoi, dans d'autres parties du territoire pyrénéen, où on sait qu'il est très dangereux de s'aventurer l'hiver, quoi.
Alors, on a parlé des arbres, je voudrais qu'on parle un petit peu de la flore, des fleurs qu'on peut trouver ici. Moi, honnêtement, je m'attendais à trouver des parterres de rhododendrons, et puis il n'y en a pas. Alors, vous allez peut-être m'expliquer pourquoi, puis quelles fleurs particulières on peut trouver, et puis peut-être la faune aussi. Quels animaux courent, gambadent par ici, mis à part les bêtes qui sont en estive?
Alors, ben, on peut trouver de l'isard, on a d'ailleurs eu la chance d'en observer deux, au moins ce matin. Il peut y avoir des marmottes. On peut y trouver bien sûr aussi tous les grands rapaces. On a eu la chance aussi d'observer le gypaète et le vautour. On peut y trouver l'aigle royal. Il y a pas mal de faucons, des faucons cresserelles en particulier. Il y a aussi des serpents, il y a des vipères, des couleuvres qui vivent là aussi. Et puis, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, du sanglier.
Il y a du sanglier à cette altitude.
Bien sûr, le sanglier peut monter très haut et retourner les terrains dans lesquels il gravite pour pouvoir retrouver des vers ou bien des bulbes de plantes comme les conopodes, par exemple, les noisettes de terre, qui sont une de leurs nourritures favorites, quoi.
Voilà. Au niveau des fleurs, du coup.
Alors, au niveau des fleurs, dans la partie plutôt forestière, on va trouver dès le printemps ce qu'on va appeler des anémones hépatiques, des anémones de Sylvie. Ça, c'est vraiment le parterre de parterre supraforestier, quoi. Ensuite, en montant, on va trouver, pourquoi pas, des gentianes. Alors, des petites, des gentianes bleues. On peut trouver, bien sûr, aussi le rhododendron en très, très grande quantité. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas cette année? Eh bien, tout simplement, parce qu'il a fait trop chaud, trop tôt.
Alors, les auditeurs ont certainement remarqué depuis un peu plus de 10 minutes qu'on est ensemble, Daniel. Vous êtes accompagnateur en montagne, c'est écrit sur votre t-shirt vert. Vous êtes plus qu'un accompagnateur en montagne. Vous nous parlez de faune, de flore, de géologie. Qu'est-ce que c'est qu'être accompagnateur en montagne, Daniel?
Être accompagnateur en montagne, c'est un peu... Lily, viens là.
Lily, c'est le chien, je le dis pour les auditeurs.
Et être accompagnateur en montagne, c'est être un passeur ou une passeuse, parce qu'il y a aussi des accompagnatrices en montagne, beaucoup. Et donc, être passeur, ça veut dire avoir appris et continuer à apprendre de ce territoire et n'avoir de cesse que de faire passer aux personnes désireuses d'apprendre ce territoire ce qu'il renferme de richesse, de fragilité, d'histoire, de géologie, de tellement de thématiques diverses et variées, et ça pour tous les âges, quoi. Et donc, être accompagnateur en montagne, ça veut dire continuer aussi d'être curieux.
Et ça veut dire, Daniel, que vous apprenez encore des choses sur la vallée du Moudang ou sur la montagne en général, sur ces Pyrénées. Vous avez l'air de connaître le moindre recoin, la moindre feuille de fleurs qui bouge. Vous avez encore des choses à apprendre, vous apprenez encore des choses. Est-ce que vous êtes encore émerveillé par la montagne?
J'aurais tendance à dire que si un jour l'émerveillement me quitte, alors je poserai le sac.
Vous n'êtes pas prêt de le poser? Alors, je vous laisse souffler un peu.
Tout va bien.
J'ai remarqué aussi, Daniel, que vous êtes un tantinet, pas agacé, c'est peut-être pas le mot, mais en tous les cas, pour vous, il y a une grande différence entre venir vivre la montagne et venir faire de la montagne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça?
Chacun est libre. Mais je vois poindre depuis un paquet d'années maintenant des phénomènes de mode, quoi. Des phénomènes de mode qui amènent les gens à parcourir ces montagnes, mais sans se rappeler de comment elles s'appellent, quoi. Et sans justement prendre ce temps de l'émerveillement, ou bien, pour beaucoup, être systématiquement et uniquement dans une notion de performance, quoi, mais en oubliant où ils sont, quoi, en étant plus curieux et ou en tout cas pas suffisamment, quoi.
C'est pour ça que vous avez voulu être accompagnateur en montagne.
C'est tout à fait ça. J'ai eu la chance personnellement de rencontrer des gens qui étaient dans cette manière d'être et de vivre, hein, et qui m'ont donné le goût d'une certaine manière. Et je me suis toujours dit que quelque part il était important de garder ça en soi. Et puis patiemment de faire en sorte à ce que les gens ressentent petit à petit l'envie, le besoin et la curiosité d'être vraiment là, quoi. Je crois que c'est surtout une question d'Internet. avec ces téléphones portables, on a l'impression...
Mais vous en avez un, vos téléphones portables.
Parce que Je vais expliquer. Parce qu'un jour, ma mère me l'a collé dans la poche. Sinon, pareil, j'en aurais pas, quoi. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, on l'a aussi par obligation de moyens au niveau de la sécurité. Bon, c'est...
Moi, personnellement, j'étais contente que vous ayez un portable. Ça m'a permis de prendre contact avec vous et de découvrir aujourd'hui plein de choses sur le Mudang.
On est d'accord, Edith. On est d'accord. Hein. On est d'accord.
Mais plus sérieusement, ce que vous pointez du doigt, c'est pas tout à fait ça.
Non, c'est pas tout à fait ça, non. C'est surtout. Je vois trop de gens le nez sur leur téléphone aujourd'hui, quoi. Beaucoup trop de monde le nez sur le téléphone avec des applis qui donnent l'impression mais de tout savoir. Et quand je vois la patience dans ma vie qu'il a fallu pour emmagasiner tant et tant d'informations.
Et vous les avez emmagasinées comment ? En allant vous-même sur le terrain, en vous renseignant auprès des anciens, en lisant ?
Tout ça.
Tout ça en même temps.
En passant beaucoup de temps avec les anciens, ça c'est sûr. Et en allant avec eux en montagne. Après, en étant aussi lecteur depuis toujours de tout ce qui est la bibliographie pyrénéenne et pyrénéiste, quoi. Et puis ensuite, en allant aussi passer du temps sur le terrain, en particulier pour la botanique, un livre à la main, une loupe à la main, et puis avoir la patience. Non pas tant de demander au téléphone en 3 secondes et demie comment s'appelle la fleur, quelle famille, machin, mais de prendre le temps d'observer la fleur, de regarder les feuilles. Et on revient toujours à cette notion du prendre le temps.
Voilà, alors ça, j'ai remarqué que vous avez un rapport au temps un peu particulier. Pour vous, prendre le temps, c'est presque une leçon quotidienne, une leçon de vie pour chaque jour.
Oui, c'est déjà marcher lentement, marcher tranquillement, marcher à un rythme qui permet...
Oui, alors que dans notre imaginaire, on se dit qu'un bon montagnard, il y va, quoi. Il fonce, il carbure et puis il s'arrête à la fin pour casse-croûter, mais tant qu'il n'a pas atteint le but, il ne s'arrête pas pour casse-croûter et il fonce. Et en fait, vous m'avez montré ce matin, depuis 7 heures ce matin, que ce n'est pas ça un bon montagnard.
Alors il est capable aussi. Il est capable aussi, quand il a besoin. Quand il a besoin. Je suis capable de monter à des rythmes évidemment beaucoup plus effrénés, il n'y a pas le problème. Mais il faut que j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, alors je prends le temps.
On va terminer, Daniel, avec ma dernière question, c'est que je vous ai entendu tout à l'heure, on a croisé des personnes qui vous ont interpellé pour vous poser des questions, et puis vous leur avez dit, il faut savoir lire la montagne. Alors aujourd'hui, quand vous lisez la montagne, quand vous lisez les Pyrénées, quand vous lisez en particulier cette vallée du Mudang, qu'est-ce que vous voyez ?
Que ce soit dans la vallée du Mudang ou dans n'importe quel endroit de ces montagnes, il y a une chose qui est une merveilleuse certitude, quoi. C'est que c'est pas demain la veille que tout ça va bouger, quoi. Alors, bien entendu, ce qu'il y a en surface, ça risque bien. Et on voit bien cet été à quel point l'herbage a jauni très vite, à quel point les sources, pas mal de ces sources se sont taries. Ce que je vois dans cette lecture de la montagne, quand je dis lire la montagne, en fait, c'est en particulier par rapport à la façon qu'on va avoir, aux possibilités qu'on va avoir de s'y déplacer, en utilisant, dans la plupart des cas, les chemins des animaux. Parce que ce qu'on appelle un chemin de randonnée aujourd'hui, au départ, c'est un chemin de brebis ou de vache. Donc, on en a détourné l'utilisation première. Bref. En tout cas, moi, quand je lis un paysage de montagne, je regarde toujours par où je peux passer pour ne pas me fatiguer de trop. Anticiper les années futures ne tient pas seulement et pas uniquement à la lecture de la montagne. L'anticipation des temps futurs, elle est plutôt dans une sagesse à retrouver. On discutait tout à l'heure avec une dame qui nous disait que dans certaines stations de ski, on continuait de construire des remontées mécaniques. Alors d'aujourd'hui, est-ce que c'est bien raisonnable, quoi ? Voilà. Anticiper les années qui viennent, j'aurais tendance à dire que il est temps qu'on reparle aux gens de ce qu'est la montagne, non pas de ce que sont les activités outdoor, comme on dit, hein, mais de ce que c'est que la montagne. Parce que la montagne, c'est pas des activités à pratiquer, quoi. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Automatiquement, il me semble que quand on est dans l'apprentissage, dans l'éducation que ce soit de la montagne, de la ville, de n'importe quel milieu dans lequel l'humain vit, s'il sait quoi respecter, eh bien, il le fera. Mais s'il ne sait pas quoi respecter ou comment, eh bien, il ne le fera pas. Et on pourra nous parler encore pendant 50 ans du respect de l'environnement, ça aura du mal à venir.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Des nouveaux renforts policiers déployés par Madrid à Ceuta, des milliers de migrants ont traversé la frontière.